rythme 7-9.
Bienvenue sur France Inter et bonjour, bonjour à tous. Nous sommes le vendredi 14 janvier. Anaïs Feugat, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, des masques FFP2 pour les maternelles. 3300 contractuels supplémentaires pour les remplacements de profs. Des moyens pour l'éducation ont été mis sur la table par le gouvernement. Le jour même de la grève dans les écoles, on voit ça avec vous Anaïs, après les autres titres.
Maintenir l'augmentation du prix de l'électricité à moins de 4%, l'État demande des efforts financiers à EDF. Les consommateurs sont satisfaits. Ils rapportent 1 milliard d'euros à la montagne. Le retour aujourd'hui des Britanniques dans les stations de ski. La crise humanitaire en Zambie, la grande oubliée des médias, et le cinéma africain à l'honneur au Forum des Images de Paris.
Invité rendez-vous d'Inter ce matin à 7h45, le débat éco avec Thomas Piketty et Dominique Seux. Une question aujourd'hui, les gauches économiques sont-elles irréconciliables? Et puis à 8h20, le grand entretien de la matinale avec le sociologue Gérald Bronner, président de la commission Les Lumières à l'ère numérique. Il a remis au président de la République un rapport sur la désinformation et le complotisme. Participez au débat, dialoguez avec lui, le standard vous attend, il est ouvert. 01 45 24 7000.
France Inter.
Des syndicats reçus par le Premier ministre le jour même d'une manifestation du jamais vu sous ce quinquennat et des mesures lâchées face aux revendications. Signe que l'exécutif veut éteindre au plus vite les braises de la contestation dans l'éducation nationale. Enseignants, parents d'élèves, hier soir au ministère de l'Éducation nationale avec le Premier ministre et le ministre de la Santé, la réunion s'est terminée tard dans la soirée. Vous l'avez suivi, Sonia Princé, les syndicats ont obtenu des engagements sur les moyens et la méthode.
Sur la méthode, tout d'abord, les personnels de l'éducation nationale avaient le sentiment de ne pas être consultés, de ne pas être écoutés. Le ministre de l'Éducation nationale et le ministre de la Santé se sont engagés à organiser des réunions bimensuelles avec les syndicats. Ensuite, sur les moyens, 5 millions de masques FFP2 seront livrés, principalement dans les écoles maternelles, où les enseignants sont face à des élèves qui ne sont pas masqués. Et les masques chirurgicaux promis à tous les personnels vont arriver un peu plus tôt à partir de la semaine prochaine. L'installation de capteur de CO2 sera amplifié. Jean-Michel Blanquer a aussi promis des moyens humains, 3300 contractuels supplémentaires pour des remplacements, 1500 assistants d'éducation dans les collèges et lycées et des personnels d'aide administrative pour les directeurs d'école. Enfin, les évaluations de CP qui devaient se dérouler à partir de lundi sont reportées et une consultation va avoir lieu pour décider éventuellement de reporter les épreuves de spécialité du bac du mois de mars au mois de juin. Rien ne change en revanche en ce qui concerne la série des 3 tests pour les cas contacts. 16 millions d'autotests seront livrés dans les pharmacies la semaine prochaine.
Des résultats obtenus, disent les syndicats, grâce à la forte mobilisation d'hier. Pas loin de 140 rassemblements et près de 78 000 manifestants officiellement. Les syndicats se sont sentis reconnus mais restent vigilants. Écoutez Sophie Vénétité, la secrétaire générale du SNES, principal syndicat du secondaire.
On a eu une réunion qui a été longue, qui a montré une volonté certainement d'échanger. Quelques engagements ont été pris, par exemple sur les masques, les capteurs ou sur le recrutement d'AED. Après, sur une question qui a quand même été au cœur de la mobilisation, c'est-à-dire la colère des personnels liée à la méthode, en fait, à la méthode Blanquer. C'est vrai que là-dessus, on jugera sur pièce parce que on sait que, enfin, on a quand même été échaudé par un certain nombre d'épisodes ces dernières semaines et reste à voir aussi si les belles paroles et les engagements seront tenus sur le long terme.
Sophie Vénétité du SNES avec Sonia Princé, toujours au chapitre éducation. Le futur candidat Macron veut revoir les universités, les rendre plus professionnalisantes. Devant les présidents d'université, le chef de l'État juge intenable, je cite, un système où l'enseignement supérieur n'a aucun prix pour la quasi-totalité des étudiants. Et avec l'exaspération des enseignants, des familles, voici un autre sujet que le gouvernement surveille comme le lait sur le feu à 3 mois de la présidentielle. Le prix de l'énergie, coûte que coûte, le gouvernement respectera sa promesse de limiter à 4% la hausse de la facture d'électricité pour les Français. Comment y parvenir? Eh bien, en baissant la principale taxe, perte fiscale de 8 milliards d'euros pour l'État, et en obligeant EDF à vendre encore plus d'électricité nucléaire moins chère à ses concurrents. C'est l'annonce d'hier soir du ministre de l'Économie, à la grande satisfaction de l'association de consommateurs CLCV, son directeur François Carlier.
C'est une excellente nouvelle. Grosso modo, le consommateur français est le plus protégé d'Europe sur la hausse du prix de l'électricité. 4%, c'est beaucoup moins qu'ailleurs, dans d'autres pays où c'est plus de 20, plus de 25, plus de 30%. On a réussi en jouant sur tout un tas de leviers et d'une façon, je dirais, somme toute honnête et raisonnable, en jouant sur la parafiscalité, en rejouant sur la formule de calcul. Je confirme qu'il n'y aura pas de rattrapage tarifaire pour l'année d'après. Il n'y a pas d'ardoise, hein, peut-être à 1%, mais pas plus. Globalement, il faut vraiment le prendre comme une bonne nouvelle.
François Carlier avec Delphine Evenoux. Du côté de EDF, la pilule est amère. La mesure coûtera près de 8 milliards d'euros à l'entreprise, selon le ministre de l'Économie. Évidemment, nous serons aux côtés d'EDF pour les aider à passer cette difficulté, dit la ministre de la Transition écologique. L'électricien a suspendu hier soir l'une de ses prévisions financières. D'autant qu'il doit faire face à un autre souci, un problème de corrosion sur le système de sécurité des réacteurs nucléaires. Nouveau réacteur concerné, celui de la centrale de Penly en Seine-Maritime. Après chaud dans les Ardennes et Civaux dans la Vienne, beaucoup de réacteurs à l'arrêt actuellement, ce qui fait encore bondir le prix de l'électricité. On y reviendra à 8h.
7h06, ils ont sabré le champagne en chantant le God Save the Queen.
Eh oui, Nicolas, les professionnels de la montagne. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Les Britanniques sont de retour. Dès aujourd'hui, les skieurs anglais ne sont plus soumis au motif impérieux de voyage et à la période d'isolement de 48 heures. Vaccination complète et tests PCR ou antigéniques de moins de 24 heures suffisent pour rejoindre les stations de sport d'hiver françaises qui soufflent, Philippe Lefebvre.
C'est un véritable soulagement car la présence des skieurs britanniques, essentiellement dans les Alpes, génère un chiffre d'affaires de près d'un milliard d'euros. Et hier soir, à l'Alpe d'Huez, François Badgili, le directeur de la station, ne cachait pas sa satisfaction.
La clientèle britannique, c'est un quart de notre clientèle. Et c'est une clientèle qui est particulièrement présente sur l'intervacances scolaires françaises, donc qui est importante pour la vie de nos stations.
Et dans l'agence de location franco-britannique Madame Vacances, pas simple de répondre à la demande, reconnaît Johanna Laforge, la directrice commerciale.
Au bureau de Londres, il prend appel après appel. On a à la fois des personnes qui réservent plus tard dans la saison, février-mars, mais aussi des personnes qui avaient annulé et qui reprennent leur réservation, même pour ce samedi.
Mais dans les stations, ce retour rapide des Anglais risque de poser quelques difficultés techniques, explique Marc Bourreau, le directeur de l'école de ski français de Méribel.
Nous sommes à la recherche de moniteurs supplémentaires. Si on avait un magicien qui nous apporte sur un plateau de 30 moniteurs, nous pourrons les faire travailler.
Enfin, pour acheminer ces touristes, Eurostar devrait ajouter des trains dans les prochaines semaines, uniquement en direction de Paris, puisque le transporteur a supprimé l'année dernière ses liaisons directes entre Londres et la Savoie.
Et à Paris, la préfecture de police va devoir revoir sa copie sur le port du masque obligatoire en extérieur. L'arrêté a été suspendu comme celui des Yvelines après la décision du Conseil d'État qui l'encadre. Le port du masque peut être imposé, mais à certaines conditions et limité à certains lieux. Aux États-Unis, l'obligation vaccinale dans les grandes entreprises voulue par Joe Biden bloquée par la Cour suprême. Revers pour le président américain qui traverse une mauvaise passe. Sa réforme électorale pour sécuriser le droit de vote des Afro-Américains est dans l'impasse. Les États-Unis en permanence sous les projecteurs médiatiques. Mais que sait-on de ce qu'il se passe au Malawi, au Guatemala ou encore en Zambie? Et c'est pourtant dans ces pays dont personne ne parle que se jouent en silence de graves crises humanitaires. L'ONG CARE publie aujourd'hui son rapport sur les 10 grandes crises oubliées des médias, Claude Guibal.
Et si on jouait à chercher l'intrus? Exemple, les déboires du prince Harry et de Meghan, les amours de Ben Affleck et Jennifer Lopez ou la crise en Zambie. La réponse est là, c'est évidente. L'an dernier, la presse internationale n'a consacré que 512 articles à la Zambie, où se joue en silence un des plus grands drames humanitaires de la planète, presque 1 million de personnes au bord de la famine, 60% de la population en dessous de la ligne de pauvreté et où le dérèglement climatique frappe sans répit. 512 articles donc contre 239 000 consacrés à la course à l'espace entre Jeff Bezos ou Richard Branson, ou encore 3,5 millions sur les JO de Tokyo. Pour Philippe Lévesque, président de CARE France, ces angles noirs de l'actualité ont des conséquences lourdes.
Quand un sujet est largement médiatisé, ça permet ensuite de mobiliser les négociateurs ou les bailleurs de fonds internationaux, qui sont même sollicités par les parlements, qui sont sollicités par les électeurs. Et donc il y a une chaîne qui peut se faire et qui va permettre d'apporter davantage d'aide ou d'essayer d'avancer dans la résolution de conflits.
Le triste palmarès dressé depuis 5 ans par l'ONG met en lumière ces crises oubliées de la Centrafrique au Honduras, alors que sur la planète, une personne sur 28 ne peut survivre sans aide humanitaire.
Claude Guibal.
France Inter, il est 7h10. Anaïs, les œufs bio coûtent plus cher depuis le 1er janvier.
Oui, 30 centimes de plus pour une boîte de 6 œufs, ça fait 2,75 € en moyenne la demi-douzaine. L'inflation n'y est pour rien. Cette fois, c'est l'entrée en vigueur de nouvelles réglementations européennes, Lucie Amadieu.
Désormais, les poules pondeuses élevées en agriculture biologique doivent être nourries à 100% par des aliments bio. Cela engendre un surcoût d'environ 30% pour les agriculteurs. Eux aussi doivent faire face à l'augmentation du coût des matières premières. Le vice-président en charge du bio, Synalaf, le syndicat avicole de France, Benoît Drouin, fait ses calculs.
70% du coût d'un œuf que vous allez acheter dans votre magasin du coin, en fait, c'est avant tout de l'alimentation de ces animaux, puisque du blé, du maïs, ces matières premières-là ont fortement augmenté. On va dire de 30, 40, 50% pour certaines.
Ces hausses, les éleveurs ne peuvent pas les absorber, selon lui. Il s'inquiète, d'autant que depuis le 1er janvier, les poules bio, dès leur naissance, doivent avoir un accès à l'extérieur. Selon Benoît Drouin, cela fera baisser le nombre d'œufs pondus par chaque poule.
Elle va avoir un accès à la lumière beaucoup plus important qu'elle ne l'a aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui elle était élevée en bâtiment. Donc le fait d'être élevée à l'extérieur, ce qui est peut-être un plus pour le consommateur, il n'y a aucun problème. Moi là-dessus, je ne juge pas. Au contraire, c'est très bien. Il faut que le consommateur comprenne que ça va avoir une conséquence sur le rendement en œufs. Il y aura moins de produits, donc s'il y a moins de produits, l'œuf coûte plus cher à produire.
Les œufs bio sont de plus en plus plébiscités. L'année dernière, les ventes ont bondi de presque 12% par rapport à 2019.
La justice se prononce aujourd'hui sur une nouvelle demande de remise en liberté de Cédric Jubillard, soupçonné d'avoir tué son épouse Delphine à Cagnac-les-Mines. Le corps n'a jamais été retrouvé. L'entrée en lice avec la matinière pour les handballeurs français au championnat d'Europe. Victoire 27-22 face à la Croatie hier soir. Et puis le monde sportif marseillais rend hommage à André de Rocca, décédé hier à 78 ans. Journaliste passionné de l'OM et voix de France Bleu Provence. Dans les oubliettes du cinéma mondial, 126 films africains mis à l'honneur au Forum des Images à Paris. Le festival Tigritude propose des courts et longs métrages, des documentaires tournés dans une quarantaine de pays du continent. Coup de projecteur Alexis Demeyer sur une cinématographie trop méconnue.
Un extrait de Munamoto, ce mélodrame camerounais de 1976, projeté en version restaurée en ouverture de Tigritude. Depuis 3 ans, les deux programmatrices, elles-mêmes réalisatrices, ont visionné 1 millier de films pour dresser ce panorama subjectif du 7e art panafricain. Diana Gay.
Les cinématographies d'Afrique, je les ai découvertes très tardivement. Dans les années 80 où j'ai grandi, il y avait déjà très peu d'accès à ces œuvres. Et c'est un chemin de croix que de voir ces films. Nous, on a la chance avec Valérie d'en faire, donc de circuler dans des festivals, de pouvoir rencontrer des cinéastes. Mais il y a une vraie carence qui persiste.
Cet impressionnant cycle Tigritude couvre 7 décennies, des années 50 à nos jours, avec une porte d'entrée, la décolonisation, comme nous l'explique Valérie Ozouf.
Nous avons choisi de démarrer cette anthologie chronologique en 1956, qui est la date de l'indépendance du Soudan, qui était d'ailleurs un grand pays de cinéma avant Omar el-Béchir, et de suivre comme ça, comme une fresque à la fois éthique, esthétique et politique, ces mouvements de libération.
Un tigre ne proclame pas sa tigritude, selon le prix Nobel de littérature Wole Soyinka. L'écrivain nigérian est d'ailleurs le parrain de cette anthologie cinéphilique. Il est attendu au Forum des Images dans les semaines qui viennent.
Et le festival a lieu jusque fin février.
Merci Anaïs Feugat. Dans 3 minutes, le feuilleton de la France. Aujourd'hui, l'épisode 5.